En direct tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Laurence Millet, avec Jean Frédérix à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Vendrette. Adèle, justement, qui recevra l'historien Stéphane Courtois à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Et c'est le début pour nous, ce lundi, d'une semaine sur l'improvisation dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une semaine savamment préparée, comme il se doit, sur le plus sympathique des synonymes de liberté, l'improvisation, que les dictionnaires des idées oublient en général de ranger entre l'impressionnisme et l'imprudence. Demain, mardi, nous chercherons avec Frédéric Worms à repérer l'improvisation dans des textes où elle n'est pas, chez Henri Bergson, qui, philosophe de la spontanéité, de l'ordre jaillissant, des nouveautés ordonnées et des finalités sans fin, permet de penser l'improvisation sans la nommer. Mercredi, le philosophe Christian Béthune vous parlera du jazz. Jeudi, l'historien Nicolas Offenstadt vous parlera de l'improvisation, c'est-à-dire de l'événement en histoire, le clinamen des discours inattendus qui changent soudain la face du monde peuplé. Vendredi, enfin, nous accueillerons Carole Desbarra, histoire de finir la semaine sur une nouvelle vague. Mais ce lundi, tout de suite et maintenant, c'est Clément Cannon qui est notre invité. Clément Cannon qui termine une thèse sur l'improvisation collective libre et qui a notamment coordonné, co-coordonné, le numéro que la revue Tracé consacre à l'improvisation précisément. Qu'est-ce que l'improvisation ? C'est une question mal posée. Non pas le hasard, mais peut-être la seconde vie du hasard, Carole Beffa. Voilà, nous sommes donc en studio avec Carole Beffa toute la journée, toute la semaine plus exactement. Carole Beffa, le pianiste et compositeur Carole Beffa, qui nous accompagne donc au piano pour ponctuer de ses propres improvisations les discussions que nous aurons toute la semaine et notamment en votre compagnie Clément Cannon, puisque c'est avec vous qu'on commence cette semaine. Il est d'usage en général, et d'ailleurs vous n'avez pas échappé à la règle, quand on reçoit les invités dans les Nouveaux Chemins, je leur dis toujours je ne sais pas où la conversation va nous conduire, mais que je sais d'où elle part, et en général je donne le point de départ de la conversation. Est-ce qu'une telle façon de faire, on s'est demandé si l'improvisation n'était pas une façon de réfléchir sur notre propre démarche, est-ce qu'une telle façon de faire correspond à ce qu'on pourrait dire de l'improvisation ? Ne pas savoir où on va, mais savoir d'où on part.
C'est effectivement une des manières d'envisager le phénomène d'improvisation. Il faut un point de départ, peut-être même des points de départ, des cadres, des contraintes qui viennent nourrir l'action ou le discours ou la production musicale de l'improvisateur. On pourrait aussi dire exactement l'inverse. Il faut un point d'arrivée. et on construira le cheminement à rebours de ce point d'arrivée. Ça dépend évidemment de la manière dont on situe la notion d'improvisation. Dans le cas exemplaire que vient de nous offrir Carole Beffa,
je précise que Carole Beffa a entendu le sujet sur lequel il a improvisé, et vous en êtes témoin,
absolument,
témoin canon, à la seconde où je l'ai dit, hein, la seconde vie du hasard. Le morceau en question n'existait pas avant que je le dise. En un sens, il n'existe plus maintenant. Voilà. Néanmoins, il a eu lieu.
Il a eu lieu, et donc il est la conséquence directe de l'impulsion que vous lui avez fournie, cette seconde vie du hasard. Donc là, on a bien ce phénomène d'une improvisation qui se déploie à partir d'un point fixe donné pour ensuite errer sur de multiples chemins, justement, traversés par des citations, des références, des réminiscences. Si vous utilisez la notion d'improvisation pour d'autres types de phénomènes, cadrer des situations d'urgence, des phénomènes de crise, etc., on pourrait faire la remarque donc que c'est le cas inverse qui se présente. C'est-à-dire qu'on a en quelque sorte le point d'arrivée, résoudre tel ou tel problème, telle ou telle crise, et qu'ensuite toute la créativité de l'improvisateur va se situer dans la manière dont il va trouver les médiations et les éléments de parcours pour parvenir à ce point d'arrivée.
On va parler de ces réminiscences qui sont audibles, justement, et du fait que l'improvisation, quoique spontanée, n'est pas ex nihiliste. Et ce paradoxe-là qui fait le cœur, peut-être, de la problématique de l'improvisation, en particulier en matière d'improvisation musicale, on va en parler autour de ce que Gerald Levinson vous dit dans le numéro de la revue Tracé. Mais juste avant cela, un point sur la temporalité propre de l'improvisation. Le morceau qu'on vient d'entendre, et donc un morceau qui, même si il procède d'abord d'une science du piano, d'un savoir intuitif, digital du piano stupéfiant, le morceau qu'on vient d'entendre, on en entendra d'autres au long de cette émission, au cours de cette émission, comme des suivantes, ce morceau-là se déploie selon une logique qui lui est propre et qu'on peut rétrospectivement reconstruire. C'est-à-dire qu'après coup, on peut se dire qu'il y a là un édifice. Mais sur le moment, le déploiement de cet édifice est en lui-même non pas erratique, mais incertain. Nous ne savons pas où il va. Est-ce qu'au fond, l'improvisation n'est pas une invitation à lutter contre la tendance, la tentation de l'illusion rétrospective ? C'est-à-dire de se dire, après coup, voilà ce que ça devait être, voilà au fond, et ça ne pouvait pas être autrement que ce que ça a été.
Oui, l'improvisation ne peut pas être pensée sous le spectre de la nécessité. Au contraire, elle doit nous faire sentir, et elle nous fait sentir, elle ne manque pas de nous le faire sentir, à chaque fois l'indétermination de chacun de ces enchaînements, de ces ponctuations, de ces conséquences. C'est pour ça que le hasard a fort à faire avec la notion d'improvisation. À chaque fois que Carole Beffa cherche une nouvelle harmonie ou une nouvelle idée lui vient, il ne sait pas forcément la manière dont il va la développer, dont il va la conduire, dont il va la conclure. Donc cette illusion rétrospective nous est de l'objet fini d'improvisation, qu'on peut penser comme une œuvre musicale, de la même manière qu'une symphonie de Beethoven, a beaucoup à faire avec notre culture de l'enregistrement, de l'œuvre musicale qui fixe les choses, qui nous les donne à ouïr, justement, comme des œuvres.
Et qui permet de les reparcourir en sens inverse.
Qui brise l'irréversibilité de l'improvisation, l'irréversibilité temporelle de l'improvisation, qui est son mode d'être temporel propre, pour la calquer sur l'ontologie absolument réversible et virtuelle de la partition.
Le tropisme analytique qui flatte l'intelligence aux dépens de l'instinct. Gerald Levinson dit ceci. À mon sens, parlant de l'improvisation, on va entendre ce texte, et puis juste après, peut-être en guise d'illustration, le fameux la ballade de Cyrano de Bergerac, la ballade du duel quand l'hôtel bourguignon Monsieur de Bergerac eut avec un bélitre. À mon sens, donc, dit Gerald Levinson, l'improvisation est une action ou activité où ce que l'on fait n'est pas décidé ou fixé à l'avance, du moins pas en détail. Cela ne veut pas dire que s'engager à improviser exclut une étape de réflexion ou de planification antérieure. Cela veut dire simplement qu'on ne décide pas ou ne fixe pas ce qu'on va faire pendant qu'on improvise, sauf pour certaines grandes lignes. Au contraire, on décide ou on fixe de ne pas décider ou fixer en détail par avance. En ce qui concerne l'improvisation musicale, improviser, compris de cette façon, implique effectivement qu'en improvisant, on s'engage à composer de la musique de manière spontanée et pas seulement d'exécuter une musique qui existe déjà.
Aïe ! Qu'avez-vous ? J'ai des fourmis dans mon épée.
Soit !
Elle aime ce bruit presque passionnément.
Poète ?
Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade.
Une ballade ?
Et vous touchez, monsieur, au dernier vers.
Non.
Non ? Ballade du duel. Quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel hydre.
Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ?
C'est le titre.
Non, cessez-vous !
Écoutez ! Pas de bruit !
Attendez ! Je choisis mes rimes. Là ! J'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon ? Dans le flanc, sous votre main eutre, au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles tintent. Ding-dong. Ma pointe voltige une mousse, décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre. Romper plus blanc qu'un bidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince demande à Dieu pardon, je carte du pied. J'escarmouche, je coupe, je frappe. Et là, donc, à la fin de l'envoi, je touche.
Et nous sommes touchés, évidemment, par cette scène dont on ne se lasse pas, Clément Canon. Cyrano improvise-t-il ici ? C'est un texte manifestement parfaitement écrit. À cette écriture qu'il récite s'ajoute le fait que c'est parfaitement mis en scène. Cyrano, c'est-à-dire ici Gérard Depardieu, improvise-t-il ? Est-ce qu'on peut parler ici d'improvisation ou est-ce qu'il faut se contenter de parler d'interprétation ?
Si l'on se place du côté de Gérard Depardieu, donc de l'acteur récitant ses vers, assurément non, on ne peut pas parler d'improvisation. En revanche, si on se place du côté du personnage, Cyrano, improvise-t-il ? Là, on touche une articulation ou un paradoxe central de l'improvisation, c'est-à-dire son articulation entre la dimension de contrainte et la dimension d'innovation, de créativité de toute action. C'est en ce sens que l'improvisation peut être un appui réflexif pour une théorie de l'action.
Parce qu'il y a une grande contrainte formelle, stylistiquement énorme. La ballade obéit à des règles extraordinairement rigides.
Qui peut être là, justement, audible ou lisible bien plus fortement que dans le cadre d'une improvisation musicale qui est libre, justement, qui est déjà affranchie d'un certain nombre de contraintes. Ici, la contrainte métrique, par exemple, les contraintes de rime, etc., sont saisissantes. Donc on peut bien supposer l'énorme travail de préparation, pour le personnage toujours, bien sûr, pour Cyrano, qui préside à l'élaboration improvisée de cette ballade. En même temps, ce qui est remarquable dans cet extrait, c'est l'utilisation que fait le personnage, ce qu'on pourrait appeler, après Gibson, des affordances d'action, c'est-à-dire de ce que lui propose, de ce que lui offre l'environnement. tel bruit, telle répartie de son interlocuteur, etc. Et là, on a vraiment une démonstration de ce qui fait la disposition à l'improvisation, c'est-à-dire réutiliser des compétences formelles extrêmement élaborées, la maîtrise métrique, le format de la balade, etc., et les utiliser, les exploiter, les modifier, les liquéfier au contact d'un environnement qui est toujours en train de susciter des propositions, des modifications de ces schémas. Et je pense que cet extrait montre bien cette articulation entre, d'un côté, des modèles extrêmement contraignants qui peuvent présider à la production de l'improvisation, de l'autre, de quelle manière cette improvisation va être resculptée et toujours remodifiée par les propositions de l'environnement.
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, au début de cette émission, de seconde vie du hasard, au sens où l'impro n'est pas le hasard, mais féconde le hasard au point, paradoxalement, de lui accorder une certaine forme de nécessité. Cyrano jouant avec les éléments du décor, au point de faire dire ding-dong à la porte contre laquelle il projette Valvert, joue du hasard, mais jouant du hasard, il le rend nécessaire dans une perspective quasiment nietzschéenne, au fond, hein, où il s'agit de rédemption du hasard. L'amor fati chez Nietzsche, c'est la transformation du hasard en nécessité qu'il a d'être ce qu'il est, Clément Cannon.
Oui, le hasard est nécessaire à l'improvisation. Qu'est-ce que serait une improvisation dont le hasard serait exclu ? On n'arrive pas même à le saisir conceptuellement, puisque l'improvisation peut se définir aussi par une puissance, une potentialité de variation. Donc il faut que le spectre des événements et des éléments puisse faire affleurer ce hasard, justement. Donc le hasard est nécessaire, il est doublement nécessaire. Donc il est nécessaire, on a vu, constitutif, on va dire. Mais du côté de l'improvisateur aussi, un bon improvisateur, c'est quelqu'un qui va pouvoir non seulement se saisir de ces hasards, j'en ai parlé, de ces affordances de l'environnement, mais montrer son improvisation comme étant elle-même le fruit du hasard, comme étant saisie de cette légèreté qui peut caractériser le hasard.
Un bon improvisateur, on en a un avec nous en studio et en direct toute la semaine, c'est le pianiste et compositeur Carol Beffa, dont les doigts nous accompagnent donc, et dont le talent nous accompagnera toute la semaine. Alors je lui ai dit tout à l'heure qu'on entendrait parler, plus exactement qu'on lirait un texte de Proust. Et le hasard de la conversation que nous avons fait que, au fond, c'est plutôt Nietzsche qu'il s'agit d'entendre ici, puisque ce mélange de hasard et de nécessité, cette rédemption par la nécessité du hasard, ou ce paradoxe de la spontanéité improvisatrice, justifie qu'on entende le paragraphe 155 du Maître Trop humain, c'est Cécile Bacquès qui nous le lit, Cécile Bacquès dont la voix également nous accompagne toute la semaine. Le paragraphe s'appelle « Croyance à l'inspiration ». Je voudrais qu'on entende ensuite Carol Beffa nous dire lui-même ce qu'il en pense, justement.
Les artistes ont intérêt à ce qu'on croit aux intuitions soudaines, aux soi-disant inspirations. Comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel comme un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur produit constamment du bon, du médiocre et du mauvais. Mais son jugement, extrêmement aiguisé, exercé, rejette, choisit, combine. Ainsi, l'on se rend compte aujourd'hui, d'après les carnets de Beethoven, qu'il a composé peu à peu ses plus magnifiques mélodies et les a en quelque sorte tirées d'ébauches multiples. Celui qui discerne moins sévèrement et s'abandonne volontiers à la mémoire productrice pourra, dans certaines conditions, devenir un grand improvisateur. Mais l'improvisation artistique est à un niveau fort bas en comparaison des idées d'art choisies sérieusement et avec peine. Tous les grands hommes sont de grands travailleurs, infatigables, non seulement à inventer, mais encore à rejeter, passer au crible, modifier, arranger.
Voilà, Carole Beffa, donc, qui nous accompagne toujours, et Clément Canon, qui est notre invité aujourd'hui, pour parler d'improvisation, au début donc de cette semaine sur l'improvisation. Nietzsche, dans ce texte, s'en prend au mystique de l'inspiration. Ceux qui tiennent ça pour finalement la visitation d'une muse qui viendrait et dont il suffirait de recopier les conseils, au fond, pour faire œuvre. Et il fait valoir, d'ailleurs, dans une perspective qui sera ensuite reprise par Paul Valéry, un éloge du travail contre cette espèce d'ineffable grâce inexplicable ou injustifiable. Et le paradoxe de ce que dit Nietzsche ici, Clément Canon, c'est que, au terme du travail, ou plus exactement le travail produit de la même manière que de la terre ou de la glaise peut naître la vie chez Lucrèce, ici, le travail fait jaillir quelque chose qui relève du talent, voire de l'improvisation, en tout cas de l'inattendu. Comment s'opère ce paradoxe? Comment est-ce qu'on réussit à le penser? Comment du travail naît le talent, ou le talent d'improviser? Comment des certitudes laborieuses naissent les élans du cœur? Et puis, question qui va avec, comment enseigne-t-on l'improvisation, Clément Canon?
Oui, dans ce texte, Nietzsche oppose la réelle spontanéité, mais le faux génie de l'improvisateur, avec le vrai génie et la vraie spontanéité de Beethoven. Et la critique génétique qui s'est penchée sur les esquisses et les séries de manuscrits de Beethoven a permis vraiment de beaucoup apprendre et de beaucoup découvrir sur effectivement qu'est-ce qu'était le travail d'un thème, par exemple, ou le développement d'un motif chez Beethoven. Et on se rend compte en examinant la multitude d'états intermédiaires de manuscrits à quel point on est aux antipodes, effectivement, de l'image d'Épinal d'une muse dictant au génie son art. Et c'est ce que met en exergue ici Nietzsche, c'est que comment l'improvisateur qui s'épargne toute cette tout ce travail laborieux, toute la construction de ces médiations patientes, pourrait-il parvenir au même degré de génie et de facilité que le patient travail d'un Beethoven. Effectivement, ce n'est pas un paradoxe mince ou léger. Une des manières de répondre à ça, c'est de dire que le travail de l'improvisateur, cette patience laborieuse, ne se situe pas, ne prend pas corps dans le temps de l'improvisation, bien sûr, mais avant. Bien sûr, c'est la préparation de l'improvisateur qui fait son travail. Il va se préparer pendant toute une vie, disait Miles Davis, évidemment. Il faut toute une vie pour faire 4 minutes, un solo de 4 minutes. Alors, dans le cas de la musique, puisque c'est le cas que nous venons d'avoir sous les oreilles, ça va passer par une maîtrise digitale, déjà, le fait de pouvoir faire passer de manière transparente et fluide la moindre de ses idées, mais aussi par la maîtrise d'outils théoriques, l'harmonie, les références stylistiques. On en a entendu beaucoup d'exemples dans l'improvisation précédente. Donc bien sûr qu'il y a travail de l'improvisateur, de même qu'il y a travail du compositeur. Simplement, le travail du compositeur est concomitant à l'élaboration, en grande partie concomitant, bien sûr qu'il y a une éducation aussi, mais en grande partie, il est concomitant à l'élaboration de l'œuvre. L'improvisateur, au contraire, se prépare toute sa vie au jaillissement spontané qui va faire la performance.
Et c'est à cet égard qu'on peut se demander s'il s'y prépare véritablement. Après tout, on ne se prépare pas à mourir. Hein. De quelle manière est-ce qu'on se prépare à improviser? Dans Astérix en Corse, ils décrivent les élections dans les villages comme ça. Ils disent on bourre les urnes, puis on les jette à la mer et c'est le plus fort qui gagne. Et je me demande si au fond, la préparation à l'improvisation, Carole Beffa, ne relève pas d'un tel paradoxe et si au fond, il n'y a pas une part d'oubli qui immanent au moment où on joue et finalement, la reprise de tout ce qu'on sait procède de son oubli, justement.
Il y a deux façons de voir l'improvisation chez les improvisateurs classiques, entre guillemets, si tant est qu'on puisse séparer l'activité de l'improvisateur en musique, disons classique, de celle de l'improvisateur en jazz, par exemple, dans la musique collective. Il y en aurait une qui considérait effectivement qu'il faut une véritable tabula rasa, qu'on improvise bien que lorsque on essaye de perdre toutes ces références. Ce qui pose évidemment le problème de l'origine, de qu'est-ce que c'est qu'une trouvaille qui soit effectivement encore une trouvaille, enfin, comment faire pour être sûr d'avoir effectivement un commencement absolu.
Comme une couleur qu'on n'aurait jamais vue.
Exactement. Ce qui, à mon avis, est un paradoxe. Et puis, vous auriez une école peut-être un peu plus, d'ailleurs, historiquement liée à l'improvisation à l'orgue, qui est une école qui va considérer que toute forme d'improvisation, comme composition dans l'instant, se nourrit d'exercices avec un côté un peu formel, peut-être légèrement académique. Je parle de l'orgue parce qu'effectivement, si vous prenez l'orgue, ou en général, vous avez des improvisateurs qui sont d'excellents improvisateurs, qui sont parfois compositeurs aussi, qui sont parfois simplement interprètes, simplement entre guillemets. Clément Gannon rappelait aussi l'excellent cas de Beethoven. Effectivement, la critique génétique a mis au jour le fait que son travail d'élaboration comme compositeur est long. Reste que lui, comme la plupart des compositeurs de son temps et des quelques décennies qui suivent, était aussi un fabuleux improvisateur, d'après ce que l'on sait. C'est assez curieux, comme ça, cette disjonction qui a eu cours à partir, on va dire, du début du XXe siècle, où souvent les compositeurs ne sont plus interprètes, donc les compositeurs ne sont pas forcément improvisateurs, alors que les deux activités paraissaient liées pendant des décennies et des décennies.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu dans cette séparation que l'on fait, cette séparation quand on regarde les choses d'en haut, ou quand on n'est pas musicien, entre d'un côté la composition et de l'autre côté l'improvisation? Est-ce qu'au fond, l'improvisation, la façon d'improviser, ne délivre pas le secret de la composition elle-même, c'est-à-dire du réarrangement d'éléments anciens? Après tout, il y a bien un alphabet pour écrire un roman, il faut bien des notes pour composer une pièce de musique, de sorte que la composition n'est jamais ex nihilo, et l'improvisation n'est-elle pas au cœur de ce paradoxe qui est celui de la spontanéité, où on est à la fois inauguré et en même temps réflexe et réinterprétation de ce qu'on possède déjà, Clément Cannon.
Oui, sur cette opposition entre improvisation et composition, effectivement, il y aurait beaucoup à dire. Une des manières peut-être les plus sages d'aborder le problème, c'est de penser la composition comme un continuum autour duquel on peut se situer librement. Une extrémité serait l'exécution purement mécanique, l'autre, composition. Mais il y a deux manières, si vous voulez, d'opérer cette disjonction. D'un côté, on peut opposer l'improvisation à l'improvisation et l'interprétation à la composition. En tant qu'interprétation et improvisation sont toutes les deux des activités performatives. Et c'est ce que explique un petit peu Carole Beffa, c'est qu'à partir du moment où les compositeurs cessent aussi des interprètes, en tant que l'improvisation est aussi une activité performative, donc qui nécessite un savoir digital, pratique, etc., il se coupe du terreau de l'improvisation. Une autre manière de réfléchir à ce triptyque, hein, improvisation, interprétation, composition, c'est d'opposer interprétation à composition et improvisation, en tant que les deux activités sont des activités créatrices, et même, disons-le, compositionnelles, c'est-à-dire qu'ils vont proposer un assemblage, une combinaison, nouvelle ou moins nouvelle, hein, mais de même qu'il y a des œuvres écrites qui proposent des combinaisons inouïes, Beethoven, ou un peu moins inouïes, un peu moins géniales. Donc on peut aussi faire cette distinction, cette disjonction, entre d'un côté l'interprétation en tant qu'elle est une activité performative non créative, et de l'autre, composition, improvisation, qui sont réunis sous le spectre de la création.
C'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, Clément Cannon, quand vous opposiez Gérard Depardieu et Cyrano, c'est-à-dire l'acteur et le personnage. L'acteur, lui, n'improvise pas, disiez-vous, et le personnage, lui, improvise dans la situation qui est donnée. Alors, je voudrais avoir votre sentiment sur un autre acteur et un autre personnage de grande ampleur, c'est Don Juan et c'est Jean Villard. C'est Don Juan et c'est Jean Villard dans une scène à la fois hilarante et tragique pour ses protagonistes. C'est la scène 4 de l'acte 2 dans lequel Jean Villard se tire du pétrin dans lequel il est mis, enfin Don Juan se tire du pétrin dans lequel il est mis, puisqu'il a promis d'épouser Mathurine et Charlotte à la fois. Or, les deux se trouvent en même temps sur scène et lui demandent des comptes. Voyez, écoutez plutôt comment Don Juan et Jean Villard, donc on va revenir là-dessus, s'en sort.
Fuyez dès la querelle, s'il vous plaît.
Mettez-nous d'accord, monsieur.
Vous allez voir. Vous allez voir vous-même.
Dis,
parler.
Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas bien ce qu'il en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à l'érudite? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce que par là que je veux vous mettre d'accord. Et l'on verra quand je me marierai. Laquelle de vous a mon cœur? Laissez-lui croire tout ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres. Quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je viens vous retrouver dans un quart d'heure.
Triple esquive donc hein, de la part de Don Juan. D'abord, évidemment, il a un ordre à donner, il s'en va, il quitte. La scène, mais avant cela, il se retranche, saisi entre d'un côté Mathurine et Charlotte, à qui il a promis le meilleur, et donc le pire, à l'une et l'autre. Il s'en sort à la fois en disant « Qui vivra, verra, vous verrez bien, celle de vous deux que j'épouserai, vous verrez bien qui ce sera. » Et puis, deuxièmement, il a une façon de s'en sortir qui consiste à renvoyer l'une et l'autre à leur propre certitude. Donc il s'appuie sur une double certitude. D'une part, on verra bien ce que ça va être, première certitude. Deuxième certitude, vous savez bien ce qu'il en est. Résultat, il ne répond pas et il s'en sort. C'est le génie de l'esquive chez Don Juan et je serais curieux d'entendre ce que Carole Beffa lui-même ou ce que ses doigts pensent de l'esquive, des stratégies de l'esquive. Carole. Clément Canon, c'est étonnant parce que quand on entend Carole Beffa jouer, on se dit après coup, ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'une évidence, là encore, rétrospective. Mais c'est après coup qu'on se dit cela.
Oui, il faut avoir entendu l'objet dans sa complétude pour se dire, oui, c'était bien là, un portrait, une picturalité de cette esquive.
Venons-en au jeu de l'acteur. Vous avez donc distingué tout à l'heure Gérard Depardieu et Cyrano de Bergerac. Est-ce que Jean Villard, en interprète magnifique, magistral qu'il est de Don Juan, n'est pas lui-même, d'une certaine manière, dans l'improvisation? Bien sûr, le texte est écrit. Bien sûr, il y a une mise en scène. Bien sûr, c'est Jean Villard. Tout cela est vrai, mais la façon qu'il a d'interpréter ce texte à l'instant où ce texte lui vient. Et finalement, de le réciter sans y penser, car quand on fait un peu de théâtre, on s'aperçoit qu'il y a un moment de telle familiarité avec le texte qu'on, en un sens, on joue d'autant mieux ce qu'on joue qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on dit quand on le joue. Est-ce que l'acteur n'est pas disponible à une certaine forme d'oubli, à la dose d'oubli suffisante ou d'amnésie nécessaire à ce qu'on pourrait appeler, malgré tout, malgré la présence du texte, malgré la toute présence de la mise en scène, de l'improvisation, Clément Canon?
Bon, si vous voulez, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer avec un peu tous les concepts ordinaires qui servent à décrire les manières qu'on a d'articuler le monde, notre environnement, nos interactions, etc. Et donc, comme tous ces concepts ordinaires, le concept d'improvisation est flou. On a du mal, on a beaucoup de mal à en tisser les limites et les catégories d'utilisation définies et pertinentes. La remarque que vous soulevez, c'est exactement... ça prolonge, disons, ce dont on discutait tout à l'heure, en faisant cette distinction entre interprétation, improvisation, composition.
Le fait que l'improvisation soit l'ami de la nécessité.
Oui, c'est ça. Et si vous voulez, on a cette dimension d'interprétation, l'acteur qui va interpréter son texte, le musicien qui va jouer sa sonate de Beethoven, le texte composé. Dans le théâtre, on a en plus cette médiation supplémentaire qui est l'incarnation scénique du texte, qui est la mise en scène. Donc, bien sûr, en un sens, l'interprète, fût-il musicien, fût-il acteur, bien sûr, en un sens, il improvise. Mais jusqu'où est-on prêt à aller dans la négociation, si vous voulez, avec le concept? Jusqu'où est-on prêt à aller, en un sens, dans l'appauvrissement aussi du concept?
C'est-à-dire dans son extension au-delà de la sphère qu'on a établie
qu'on a
au début.
Définir au début. On peut définir, c'est sûr, l'improvisation comme une certaine disposition, je dirais même disponibilité. Disponibilité à la suggestion, et donc possibilité de la répartie, de l'adaptation immédiate à un regard d'un partenaire, à un bruit impromptu dans le public. Et toutes ces dimensions-là existent aussi bien dans le jeu de théâtre que dans l'interprétation de la musique classique, ce qui peut sembler moins évident, mais je pense à un exemple tout d'un coup. C'est Rachmaninov qui, dans la composition de ses variations sur un thème de Corelli, qui est une œuvre tardive, donc qui présente peut-être moins de séduction, on va dire, que les concertos, par exemple, qu'on le connaît mieux, disait ceci: à chaque fois qu'il entendait quelqu'un tousser dans le public, il sautait là. Il se dispensait de jouer la variation suivante. Donc, il était dans un cadre d'interprétation. Vous allez me dire, c'était aussi le compositeur de son œuvre. Donc, ça facilitait peut-être la dimension... ça réduisait peut-être la dimension normative qui est celle de l'œuvre.
Mais qu'en est-il à ce moment-là, par exemple, du phénomène du sens de la répartie? Ce qu'on appelle le sens de la répartie chez tout un chacun. Quand Valvert lui dit « Marot, faquin, buteur de pieds plats, ridicule », quand il dit ça à Cyrano... Donc il lui dit « Marot, faquin, buteur de pieds plats, ridicule », Cyrano se retourne en disant « Ah, et moi, Cyrano, Savinien, Hercule, de Bergerac », comme si Valvert venait de se présenter lui-même. C'est génial, ça fait hurler de rire tout le monde, il met les rieurs de son côté, mais il improvise.
Absolument.
Quand Churchill fait une conférence de presse et qu'une dame au fond de la salle lui dit « Moi, monsieur, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé », et que Churchill lui répond « Mais du tac au tac, et bien moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais », c'est du génie. On est là dans l'ordre du génie au sens kantien du terme, c'est-à-dire une disposition innée de la nature, de l'homme, par le truchement de laquelle c'est la nature qui donne ses règles à l'art. Est-ce que le génie, l'improvisation et l'interprétation ne sont pas ici, sinon synonymes, du moins vraiment parents ou cousins, Clément Canon?
Oui, il y a toujours ce couple, interprétation, improvisation, dont les frontières et les imbrications réciproques sont très difficiles à définir. Mais sur cette idée de la répartie, effectivement, elle a fort à faire avec la notion d'improvisation. On peut même dire que c'est un de ces éléments constitutifs. Ce qui va caractériser l'improvisateur, quel que soit son domaine d'expression ou d'action, c'est son sens de la répartie. Qu'est-ce que c'est la répartie ? C'est de savoir mobiliser un ensemble, un corpus de savoirs, de compétences, de savoir mobiliser donc ce corpus dans un instant présent, face le plus souvent à des conséquences impromptues, on dirons-nous, ou imprévues, ou en tout cas qui n'étaient pas anticipées par le locuteur dans le cas d'un discours ou d'une répartie à un dîner avec des convives.
Alors vous avez parlé d'impromptu, Clément Canon. Comme nous avons énormément préparé une émission sur l'improvisation, car sinon ce ne serait pas du travail sérieux, et on ne pourrait pas improviser justement, je voudrais qu'on entende tout de suite, c'était une suggestion d'ailleurs de Laurence Millet, un extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, livre 3 des Confessions, dans lequel Rousseau explique en toute humilité pourquoi il fait d'excellents impromptus à loisir justement. Écoutez, c'est Cécile Baquès qui nous le lit.
Deux choses presque inaliables s'unissent en moi sans que j'en puisse concevoir la manière. Un tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui ne se présentent jamais qu'après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n'appartiennent pas au même individu. Le sentiment, plus prompt que l'éclair, vient remplir mon âme. Mais au lieu de m'éclairer, il me brûle et m'éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. Je suis emportée, mais stupide. Il faut que je sois de sang-froid pour penser. Ce qu'il y a d'étonnant est que j'ai cependant le tact assez sûr, de la pénétration, de la finesse même, pourvu qu'on m'attende. Je fais d'excellents impromptus à loisir, mais sur le temps, je n'ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une fort jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs. Quand je lus le trait d'un duc de Savoie qui se retourna, faisant route pour crier « À votre gorge, marchand de Paris !» je dis « Me voilà ».
Ce qui est passionnant, Clément Canon, dans ce texte de Rousseau, c'est qu'il dit faire d'excellents impromptus à loisir, mais sur le temps, je n'ai jamais rien fait ni dit qui vaille, comme si l'individu Rousseau, et paradoxalement, c'est le penseur d'un devenir communautaire des êtres, de la fête où les individualités s'abolissent dans une transparence retrouvée et une ingénuité retrouvée, c'est comme si lui-même n'arrivait pas à se faire suffisamment commun, suffisamment communauté, pour prolonger l'impromptu dans le temps. Et effectivement, Rousseau ici permet de poser en tout cas une question qui est la question de l'improvisation collective. Comment penser l'improvisation collective, sinon en constatant que les foules chantent toujours juste, par exemple, Clément Canon ?
Et on pourrait retourner cette question en se disant comment penser l'improvisation sans le collectif ? Parce que c'est un des pas des moindres paradoxes justement de l'improvisation qu'on a déjà souligné, de reposer sur une dimension de contrainte et une dimension d'innovation. Or, qu'est-ce qui va empêcher, si vous voulez, l'improvisateur solo, donc encore une fois, fût-il un musicien ou quelqu'un qui prépare, qui fait un discours, qu'est-ce qui va empêcher l'improvisateur solo de tourner en rond, si vous voulez, sur ses vieux démons, sur ses recettes, sur les choses toutes faites qu'il a apprises, etc., et qu'il va simplement proposé dans un paquet un peu nouveau dans le moment de la performance. Autrement dit, peut-être une des meilleures garanties de la véracité et de l'authenticité de l'improvisation, c'est de la passer au filtre du collectif. Parce que quoi de mieux pour créer justement de l'imprévu et de l'imprévisibilité que de demander à deux personnes, trois personnes, quatre personnes, d'improviser simultanément. On est sûr, par la complexité, au sens d'un système complexe, si vous voulez. On est sûr, par la complexité qui va jaillir de la situation, qu'on va créer un environnement imprévu. Et donc, cet environnement imprévu va nécessiter la réponse improvisée, la répartie peut-être.
C'est ce qu'on appelle le tuning, en l'occurrence, l'harmonisation.
C'est ça,
l'harmonisation,
le tuning, la coordination, on pourrait dire en français, ou l'harmonisation, la manière de faire se rencontrer harmonieusement, coordonner, j'aime bien ce terme, coordonner des actions qui sont elles-mêmes improvisées dans un tout cohérent et articulé. Et ça, c'est le défi, évidemment, majeur de l'improvisation collective.
L'improvisation collective, on va terminer cette émission avec Carole Beffa, justement, sur le thème ô combien paradoxal quand on est un unique interprète, mais après tout, aucune difficulté n'est trop difficile pour lui. On va donc terminer sur l'idée d'improvisation collective. Carole a 1 minute 45 pour nous parler avec ses doigts d'improvisation collective. C'était la note de la fin. 10h50 sur France Culture, on retrouve Adèle Van Rett, le journal des Nouveaux Chemins. Zdravstvuyte, Adèle.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Je vous propose de quitter la musique et l'improvisation, hein, jusqu'à demain en tout cas, et de voyager dans le temps et dans l'espace pour nous retrouver en Russie, il y a plus d'un siècle, en 1909 exactement, date de la parution d'un recueil d'articles qui fit l'effet d'une véritable bombe en Russie et qui devint immédiatement un best-seller. Jalon ou Veki en russe, c'est le titre du recueil dont on parle aujourd'hui. Bonjour Stéphane Courtois.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, et c'est à vous que l'on doit la postface de cet ouvrage, intitulé donc Jalon, qu'on trouve aux éditions du CERF et qui rassemble 7 articles écrits par des intellectuels russes du début du XXe siècle, dans lesquels y est critiqué le rôle joué par les intellectuels lors de la révolution de 1905. Et ce que cette critique a d'intéressant, c'est qu'elle est le fait des intellectuels eux-mêmes qui dénoncent leur propre rôle et qui prennent conscience des limites de l'intelligentsia de l'époque face au régime tsariste. Stéphane Courtois.
Oui, le titre lui-même est très indicatif. Jalon, ce sont effectivement 7 parmi les plus grands philosophes, juristes, etc., russes, d'après 1900, qui, après la révolution de 1905-1906, s'interrogent sur, effectivement, ce qui s'est passé, leur propre engagement, leur propre prise de position. Et le mot jalon est significatif, c'est-à-dire, bon, voilà, on s'arrête 2 minutes, on fait le point et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Alors, effectivement, ça fait l'effet d'une bombe parce que c'est une très sérieuse autocritique, doublée d'une critique de cette intelligentsia révolutionnaire et par des gens dont on ne peut pas contester l'engagement. Les uns étaient marxistes, les autres ont été déportés, etc., par le tsar. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. Alors, pourquoi ? Parce que cette révolution de 1905-1906, puisqu'elle s'est étalée sur un an et demi, 2 ans, a été en fait extraordinairement violente. Et ces intellectuels de l'intelligentsia révolutionnaire, pour qui le peuple était d'une certaine manière l'idole absolue, bon, c'est tout le grand courant populiste russe de la fin du 19e, du début du 20e, fonctionne sur un thème, un slogan qui est « servir le peuple ». Bon, il faut servir le peuple, il faut assurer le bonheur du peuple, etc. Et d'un seul coup, on s'est aperçu que le peuple n'était peut-être pas aussi bon, aussi gentil, aussi policé qu'on croyait, hein, parce qu'il faut bien dire que ces années 1905-1906 ont été extrêmement violentes. Hein. Des milliers d'assassinats politiques, une recrudescence énorme de la criminalité, des pillages, etc. Bon, et donc, voilà, il y a une espèce de prise de conscience que, bon, c'est bien de vouloir faire la révolution, mais quand on déchaîne les puissances un peu profondes, hein, qui étaient un peu enfouies, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Hein. Et du coup, il y a une réflexion sur... quel a été le rôle de ces intellectuels révolutionnaires dans ce déchaînement?
Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que parmi les 7 contributeurs, donc les sept articles ont été écrits à l'initiative de Mikhail Gershenson, mais aucun des 6 autres contributeurs ne savait que d'autres contributeurs allaient écrire des articles. Et donc, ils se renvoient l'un à l'autre sans le savoir.
Absolument. Ce n'est pas du tout le résultat d'un séminaire ou d'un colloque. C'est effectivement le résultat d'une sollicitation individuelle pour chacun de ces auteurs. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que finalement... la réflexion converge totalement, même si les uns sont philosophes, les autres sont théologiens, les autres sont juristes, ça converge totalement avec y compris une réflexion plus générale sur la situation de la Russie, sa situation historique, hein, le fait de cette absence de civilisation, cette absence de sens de l'État, cette absence de sens de la loi, ce fameux principe de servir le peuple qui fait qu'au nom du service du peuple, on oublie tout simplement la vérité, et que si la vérité dérange le service du peuple, eh bien, ma foi, on la détruit, on la massacre. Hein, donc là, il y a vraiment une autocritique et une critique fondamentale qui est assez passionnante parce que finalement, elle fait ressortir ce qui est le soubassement d'un certain type d'engagement révolutionnaire qu'on a bien connu en France, par exemple, dans les années 68. J'en ai été, donc je peux en parler un petit peu. Et on retrouve effectivement beaucoup de ces ressorts. Hein. C'est ça qui est assez passionnant. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que dès 1909, il dénonçait un certain nombre de comportements qui sont devenus systématiques après novembre 1917. Et d'ailleurs, le camarade Lénine avait bien perçu la chose, puisque en 1922, il a fait expulser du RSS tous ses auteurs, plus beaucoup d'autres, hein, puisque en septembre-octobre 22, il a fait mettre sur 2 bateaux environ 200 des plus grands intellectuels russes, pas seulement des philosophes ou des historiens, mais aussi des astronomes, des linguistes, des mathématiciens, etc. Et il les a tout simplement fait expulser. On les a débarqués sur des ports, sur les quais de 2 ports allemands, hein, ce qui était une manière de s'en débarrasser. Et c'est Lénine personnellement, maintenant que les archives se sont ouvertes, qui s'est occupé d'eux, si je puis dire. Il a fait établir les listes. Il a harcelé Staline pour savoir où s'en était, etc. Il a fait établir la liste de ce qu'ils avaient le droit d'emporter, hein. De caleçons, de paires de chaussettes, etc. Enfin, c'était vraiment le règlement de compte absolu, plus la décision majeure, l'interdiction d'emporter sa bibliothèque, ce qui, pour des intellectuels, est quand même le pire.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une des conclusions de ce livre, c'est que si le mouvement libéral a échoué, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas à la hauteur, c'est pour des raisons structurelles internes, et non pas seulement à cause de la résistance des forces de la réaction, comme il se plaît à l'affirmer?
Oui, mais la faiblesse de ce mouvement libéral, elle est aussi le résultat de 3 siècles de servage. Il faut pas oublier que le servage était encore en activité, si je puis dire, en Russie jusqu'en 1861-64. Et que le temps qu'il se défasse, hein, on ne défait pas 3 siècles de servage en quelques décennies. Hein. Donc c'est tout un état d'esprit, tout un état d'esprit du peuple, tout un état d'esprit du pouvoir et tout un état d'esprit de cette intelligentsia révolutionnaire qui effectivement ne veut pas s'engager dans des voies réformistes, mais veut aller sur des positions tout à fait radicales.
Et c'est même plus précis que ça, il me semble, puisque dans ce recueil, hein, les auteurs pensent que l'intelligentsia elle-même se caractérise par une inculture crasse, dit François Stomme dans sa préface, notamment en matière religieuse, également une indifférence au beau.
Ah ben, c'est tout le problème à ce moment-là du remplacement de la culture par l'idéologie. Hein. Il est évident que tous ces intellectuels fonctionnent, il suffit de prendre Lénine, hein, c'en est un bon exemple, fonctionnent sur une espèce de vulgate très, très étroite, hein, qu'on répète à satiété, etc. D'ailleurs, l'un des auteurs, Piotr Struve, qui était un des fondateurs du marxisme russe, était précisément un de ces hommes qui manipulait toute une vulgate et qui, au bout du compte, s'aperçoit que, bon, on est passé à côté de choses extrêmement importantes et qu'il faut revenir à des fondamentaux qui sont effectivement les valeurs habituelles, traditionnelles, hein, qu'on colporte depuis 2 ou 3 000 ans. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Lénine a traiter ces gens-là, parce que la conception que Lénine en avait, qui est tout à fait étonnante, parce que Gorki, qui était donc l'un des grands soutiens intellectuels des bolcheviks, qui commençait à se poser beaucoup de questions puisqu'il avait été obligé de partir lui aussi, avait mis en garde Lénine contre l'expulsion de ces intellectuels. Voilà ce que lui a répondu Lénine. Les intellectuels, les laquais du capital, pensent qu'ils sont le cerveau de la nation. En réalité, ils n'en sont pas le cerveau, ils en sont la merde. Je crois que c'est assez significatif.
Merci Stéphane Courtois. Donc le livre s'appelle Jalon. Il a été traduit du russe par Claire Vajou, l'introduction de François Stomme et la postface de vous, Stéphane Courtois. Et j'ajoute que pour ceux qui seraient restés sur leur faim, on peut vous retrouver demain, mardi 8 février, de 18h30 à 20h à l'espace La Tour Maubourg, où il y aura une table ronde qui s'appelle Jalon, le livre interdit par Lénine, puisqu'effectivement il a été interdit par Lénine plus tard. Intelligentsia et nihilisme de la Russie au 19e siècle à l'Europe d'aujourd'hui, avec Claire Vajou la traductrice, Françoise Stomme, Stéphane Courtois donc vous-même, Jean-François Colosimo et Chantal Delsol qui est le modérateur pour cette table ronde. Vous trouvez en ligne toutes les informations sur cette table ronde. Merci beaucoup Stéphane Courtois d'être venu en parler aujourd'hui.
C'est moi. Voilà, c'est noté. On est tous restés sur notre faim d'ailleurs, tant c'était intéressant. Merci à tous Clément Canon, notre invité du jour. Je rappelle donc qu'il est le co-coordinateur du numéro 18 de la revue Tracée sur l'improvisation. Stéphane Courtois, votre invité, Adèle Cécile Bacquès, dont la voix nous accompagne toute la semaine, et Carole Beffa, dont les doigts nous accompagnent toute la semaine et qui continuera pour vous d'improviser, de vous donner à entendre en autant d'éclairs les paradoxes enfin réconciliés de l'improvisation. Cette émission, vous la trouvez en ligne sur notre site internet où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des 500 émissions précédentes, rien de moins, ainsi qu'une bibliographie, la revue Tracée, les textes lus aujourd'hui, Nietzsche, Rousseau, mais aussi du David Antin et du Bourdieu, on n'a pas eu le temps de les lire, et enfin la référence des CD de Carole Beffa qu'on retrouve demain en direct pour mettre Bergson en musique. 10h59 et des poussières sur France Culture.